Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouamadou Koumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 9 septembre 2024. Voici le sommaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune réélu avec 95% des voix selon des résultats provisoires officiels. Au Soudan, 21 morts et 67 blessés dans des tirs imputés aux paramilitaires sur un marché de la ville de Sennar dans le sud-est. Pendant ce temps, les autorités de Khartoum rejettent les recommandations d'une mission d'experts de l'ONU qui souhaite le déploiement d'une force impartiale. Le candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet arrive en Espagne où il demande l'asile. Ici aux États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris, candidats à la présidentielle de novembre, s'affrontent demain mardi à Philadelphie dans un débat télévisé organisé par la chaîne ABC. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nathalie Barge et les sports présentés par Élisée Ungpatine. Mais pour commencer, voici le journal. En Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec environ 95% des voix lors de l'élection présidentielle de samedi, un scrutin toutefois marqué par une participation jugée faible. John Lyndon.
Le président de l'autorité électorale, Hani Mohamed Charfi, a annoncé dimanche une victoire de M. Tebboune avec 94,65% des voix, mais n'a pas fourni de nouveaux chiffres sur la participation, estimée dans la nuit à un taux moyen de 48,03%. Deux autres candidats étaient en lice. Abdel Ali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du mouvement de la Société pour la paix, MSP, principal parti islamiste, et Youssef Aouchichi, 41 ans, ex-journaliste et sénateur à la tête du Front des Forces Socialistes, FFS, plus vieux parti d'opposition. La direction de campagne du candidat Hassani a dénoncé des violations et un retour à des pratiques anciennes avec des pressions sur certains responsables de bureaux de vote pour gonfler les résultats, notamment la participation. L'affluence aux urnes était le véritable enjeu du vote, M. Tebboune voulant être un président normal, pas un président mal élu comme il y a 5 ans. Le président sort aisément vainqueur, mais c'est une victoire aux allures d'alerte, faute notamment d'avoir conquis l'électorat des jeunes qui représente plus de la moitié des 45 millions des Algériens et un tiers de l'électorat, a estimé un analyste. L'ONG Amnesty International a accusé le pouvoir de continuer à étouffer l'espace civique en maintenant une répression sévère des droits humains avec des arrestations arbitraires et une tolérance zéro des voix dissidentes.
Le président français Emmanuel Macron a adressé ses plus vives félicitations et ses meilleurs vœux de succès au président Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection en soulignant la relation exceptionnelle entre les deux pays. La France est particulièrement attachée à la relation exceptionnelle qui la lie à l'Algérie dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la mémoire, de l'économie, des mobilités entre les deux pays, des coopérations éducatives et culturelles, mais aussi la sécurité et la lutte contre le terrorisme, a révélé l'Élysée dans un communiqué. Les deux pays sont pourtant de nouveau en froid depuis l'annonce d'un soutien renforcé de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental qui a conduit Alger à retirer son ambassadeur en France le 30 juillet. Au Soudan, 21 personnes ont été tuées dimanche dans des tirs imputés aux paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide, sur un marché de Sennar dans le sud-est. Selon le réseau des médecins soudanais à l'origine de cette information, plus de 70 personnes ont été blessées dans cette attaque qu'il a attribuée aux FSR du général Mohamed Hamdan Daglo qui combattent contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. L'état de Sennar, qui abritait déjà avant les combats plus d'un demi-million de déplacés, selon l'Organisation mondiale pour les migrations, relie le centre du Soudan au sud-est, contrôlé par l'armée et où des centaines de milliers d'autres personnes avaient trouvé refuge. La diplomatie soudanaise a vivement réagi à un rapport d'experts des Nations Unies qui appelle à la mise en place d'une force indépendante et impartiale pour protéger les civils en pleine crise humanitaire. Ce rapport, publié juste avant une session du Conseil, est perçu par le gouvernement soudanais comme une preuve du caractère politique et illégal de cet organe. Gabi Dorsil.
Dans un communiqué diffusé samedi soir, le gouvernement soudanais a rejeté en bloc les recommandations émises par la mission onusienne. Des experts onusiens avaient exhorté à un déploiement rapide d'une force internationale indépendante, invoquant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés depuis le début du conflit en avril 2023. Ce conflit, qui oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo, a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Le gouvernement soudanais soutient que la protection des civils demeure sa priorité et accuse les milices armées d'être responsables des violences. Toutefois, il refuse toute intervention extérieure, affirmant que le rôle du Conseil des droits de l'homme devrait être de soutenir les efforts nationaux et non d'imposer des mécanismes étrangers. Par ailleurs, Khartoum a rejeté l'appel des experts onusiens à un embargo sur les armes, dénonçant le rapport comme étant biaisé et non professionnel. Alors que le Soudan fait face à l'une des pires crises humanitaires de son histoire récente, la tension monte entre Khartoum et les institutions internationales. Le refus catégorique du gouvernement d'accepter les recommandations des Nations Unies met en lumière les divergences profondes sur les moyens de mettre fin aux souffrances des civils.
Au Kenya, des tests ADN destinés à identifier les victimes d'un incendie survenu jeudi soir dans le dortoir d'une école dans lequel 21 garçons ont péri doivent débuter ce lundi en même temps qu'un deuil national de 3 jours. L'incendie à l'académie Hillside à Endarasha, à 170 km de Nairobi, s'est déclaré jeudi vers minuit dans un dortoir où plus de 150 garçons dormaient. Le drame qui a fait également 17 disparus a soulevé des doutes au sein de la société civile quant à l'efficacité des normes des sécurité dans les écoles kényanes. En Tanzanie, un membre du parti d'opposition, Chadema, a été retrouvé mort après avoir été kidnappé par des hommes armés, battu et aspergé d'acide, a assuré dimanche le président du parti, Freeman Mbowe, lors d'une conférence de presse. Ali Mohamed Kibao, un membre du secrétariat national du parti, a été forcé de descendre d'un bus sous la menace d'une arme vendredi, tandis qu'il se rendait de Dar es Salaam à Tanga, sur la côte nord du pays, ont indiqué des responsables du parti. Son corps a été retrouvé samedi dans un quartier de Dar es Salaam. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a déclaré dimanche avoir appris la mort de M. Kibao avec une grande tristesse et présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux responsables du parti. J'ai ordonné aux autorités d'enquête de me faire parvenir des rapports détaillés sur cet incident extrêmement grave, a-t-elle écrit sur son compte X.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent demain mardi dans un duel télévisé très attendu. Les deux candidats à la présidentielle de novembre demeurent coude à coude dans le nouveau sondage diffusé hier. Michel Joseph.
Cette dernière série d'enquêtes d'opinion montre que le candidat républicain Donald Trump reste en mesure de redevenir président des États-Unis en janvier 2025, malgré ses ennuis judiciaires et le chaos qui avait entouré son départ de la Maison-Blanche en 2021. De son côté, Kamala Harris, qui a remobilisé le camp démocrate après son entrée en campagne tardive pour remplacer Joe Biden, est aussi en mesure de l'emporter, à en croire ses sondages. Au niveau national, Donald Trump, 78 ans, devance d'un seul point la vice-présidente des États-Unis, 48% contre 47%, selon une étude de New York Times, Siena College, réalisée du 3 au 6 septembre, un écart trop serré pour dresser une tendance. Selon ce même sondage, Kamala Harris dépasse légèrement Donald Trump dans le Wisconsin, 50 contre 47, le Michigan, 49 contre 47, et en Pennsylvanie, 49 contre 48. Les candidats sont à égalité 48-48 dans le Nevada, la Géorgie, la Caroline du Nord et l'Arizona. L'élection américaine se décide au suffrage universel indirect et tout l'enjeu se concentre sur une poignée d'États clés et très disputés pour obtenir la majorité du collège électoral qui désignera le futur président. D'après une autre étude, CBS News, YouGov, réalisée aussi du 3 au 6 septembre et parue dimanche, l'élection se joue sur un fil dans le Michigan, 50-49 pour Harris, le Wisconsin 51 contre 49 et la Pennsylvanie 50-50.
Le candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet, Edmundo González Urrutia, est arrivé hier dimanche en Espagne, pays qui va lui accorder l'asile, selon le ministère espagnol des Affaires étrangères. Dans un message audio de 40 secondes transmis à son arrivée à Madrid, l'opposant de 75 ans a fait part d'épisodes de pression, de coercition et de menaces sans donner de détails. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
Au Togo, une mission d'évaluation se déroule dans 14 communes jusqu'au 13 septembre pour examiner la mise en œuvre des projets des PDC, les plans de développement communaux dans le cadre de la politique de décentralisation. Les communes concernées sont dans le Grand Lomé, la région maritime, les plateaux et la centrale. Cette mission doit évaluer notamment l'utilisation rationnelle des ressources collectées. Le gouvernement malgache a créé le Comité national des mines suite à l'adoption du code minier par le Parlement il y a quelques mois. Le CNM, qui participe à la fixation de la valeur marchande, est consulté sur les projets de loi pour réglementer les activités minières et est chargé de faciliter l'obtention des autorisations. Le nouveau code minier fait passer la redevance minière de 2 à 5% et prévoit une participation gratuite de 10% pour l'État. L'université de Zambie a ouvert un centre d'intelligence artificielle avec Google. Le réseau de recherche et d'éducation de Zambie a contribué à la connexion de 150 institutions à l'Internet haut débit, permettant l'accès gratuit aux ressources éducatives. Une stratégie nationale d'intelligence artificielle sera lancée le 24 octobre, jour de célébration de l'indépendance du pays.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Oumpatine. Salut Élisée.
Oui, bonjour Mohamedou et bonjour à tous.
Commençons par la course à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui est définitivement lancée. La deuxième journée des éliminatoires a démarré dimanche.
Oui, Mohamedou, avec un seul match d'ailleurs remporté par la Tunisie en Gambie. Comme face à Madagascar, battu sur le fil jeudi, les Aigles de Carthage ont bataillé pour s'imposer contre les Scorpions 2-1. Avec 6 points, ils s'envolent déjà en tête du groupe A devant la Gambie, les Comores et Madagascar.
Le Cameroun vise aussi un second succès demain face au Zimbabwe.
C'est après sa victoire 1-0 contre la Namibie, malgré le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports qui a fait planer la menace d'un forfait. Une polémique qui a commencé depuis la trêve internationale et qui est loin de son dénouement, puisque les deux institutions se disputent toujours le poste du coordonnateur de la sélection. Les Lions indomptables seront en déplacement en Afrique du Sud demain mardi pour affronter les Warriors du Zimbabwe.
Un déplacement difficile attend également le Nigeria, qui a bien débuté ses éliminatoires face au Bénin.
L'âge succès 3-0 des Super Eagles contre des Guépards peu inspirés et qui ont résisté pendant les 45 premières minutes avant de couler complètement en deuxième mi-temps. Cette contre-performance n'enlève en rien les objectifs de départ selon Guénot Ross, sélectionneur de l'équipe du Bénin.
On veut aller à la CAN. Le Bénin, on a raté deux avant que j'arrive. Maintenant, il faut y aller. Celle-là, elle est très importante. On veut tous aller au Maroc et c'est pas parce que tu perds au Nigeria que c'est remis en cause.
Prochain match pour le Bénin et Guénot Ross. La réception à Abidjan de la Libye, accrochée 1-1 par le Rwanda qui reçoit de son côté le Nigeria.
La suite du programme, le Mali attendu en Eswatini après avoir été accroché à domicile par le Mozambique.
Un nul, un but partout, qu'il faut vite oublier, d'après le sélectionneur des Aigles, le Belge Tom Saint-Fiet, qui veut vite corriger ce qui n'a pas marché avant ce déplacement en Eswatini.
On a donné une bonne performance. Il n'y a pas un joueur au plus qui pense qu'il est en vacances. Chaque joueur qui a joué aujourd'hui a fait tout pour le pays, pour les spectateurs. On doit travailler, on doit réfléchir après ce match aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait bien.
À l'instant, Tom Saint-Fiet, le tout nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Pour le reste des matchs de cette deuxième journée prévue ce lundi, le Sénégal se rend au Burundi, le Togo en Guinée équatoriale et le Ghana au Niger. On aura aussi Madagascar, Comores, Ouganda, Congo, Angola, Soudan et puis Éthiopie, RDC.
Et plus rapidement, Élisée, un mot sur la fin des 17e Jeux paralympiques d'été à Paris.
Oui, une apothéose riche en médailles pour l'Afrique. 6 au total, dont 3 en or. 2 en marathon T12 hommes et dames, remportés respectivement par le Tunisien Wajdi Boukili et la Marocaine Fatima Ezara. Puis la troisième en para-haltérophilie avec la Nigériane Oluyafemi Ayo qui s'impose dans la catégorie des plus de 87 kilos. Un bon bilan pour le continent qui a engrangé un total de 63 médailles. L'Algérie vient en tête avec 11 médailles, 6 en or et 5 bronzes, suivi de la Tunisie et du Maroc.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Une délégation américaine composée de 3 députés a séjourné au Niger la semaine dernière. Elle a échangé avec des responsables du régime militaire au pouvoir à Niamey sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays quelques semaines après la fin du retrait des soldats américains du Niger. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa a recueilli des réactions des Nigériens sur cette visite.
Même si la visite n'a pas été beaucoup médiatisée, son contexte a interrogé beaucoup au sein de l'opinion nigérienne. Il y a un mois, en effet, s'achevait le retrait des forces américaines du Niger. Moussa Naganou, journaliste.
Ils avaient quitté sur une bonne note en disant qu'ils vont rester pour faire la coopération humanitaire et dans le domaine social. Maintenant, ils vont tout faire pour arracher des accords, pour être présent, pour être là, pour pouvoir étendre leur hégémonie, parce que la zone du Sahel constitue une zone qui suscite beaucoup d'intérêt chez les puissances économiques du monde.
Pour cet autre journaliste, les États-Unis d'Amérique ont, en initiant cette visite, compris le message de la junte au pouvoir à Niamey. Ibrahim Manzo Diallo.
Le rôle joué par les États-Unis dans un récent passé n'a pas été du goût du CNSP, et que maintenant, si les Américains reviennent avec un nouvel état d'esprit, un esprit qui prend en compte la dimension souveraineté du pays d'accueil stade le Niger, eh bien, ils sont les bienvenus. Le général Mohamed Toumba l'a clairement dit, le Niger est d'accord d'aller avec les autres pays, les armées des autres pays, mais il faut que ça se fasse dans le respect mutuel et en prenant en compte les réalités de notre propre pays. Je pense que les Américains ont compris le sens des nouvelles autorités du Niger.
Moustapha Abdoulaye est spécialiste en relations internationales et questions de sécurité. Il estime que les deux parties ont fait montre de hauteur de vue et de pragmatisme en maintenant les cadres de dialogue.
Je pense que cela n'est pas mauvais. Même quand on cherche la souveraineté ne veut pas dire exclure les relations avec d'autres pays, mais c'est dans une approche de gagnant-gagnant. Le fait que on n'a pas suspendu le dialogue, c'est déjà de bonne guerre. Le dialogue permet toujours de baliser le chemin et surtout d'aplanir les différents conflits qui se sont produits, ou du moins les différentes incompréhensions. Maintenant, le fait que les sénateurs américains viennent au Niger dans un contexte et de l'autre côté, dans un contexte d'élection d'une part et au Niger dans un contexte de transition, peut-être leur permettra de mieux voir clair.
Le député Austin Scout, Ronnie Jackson et Guinny Panetta ont été reçus par le général Mohamed Toumba, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ministre de l'Intérieur. Les sujets qu'ils ont discutés ensemble feront, à la demande de la partie américaine, objet d'approfondissement dans une réunion dans les prochains jours. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
733 millions de personnes environ ont souffert de la faim en 2023, soit une personne sur 11 à l'échelle mondiale et une sur 5 en Afrique. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié fin juillet par la FAO, le PAM, le FIDA, l'OMS et l'UNICEF, 5 organismes spécialisés du système des Nations Unies. Pour comprendre les causes et les possibles solutions de cette situation, je me suis entretenu avec Bernard Hien, directeur du FIDA, Fonds international de développement agricole pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Cette année, en Afrique, 20% de la population est touchée par la faim. Donc 20%, c'est de l'ordre de 300 millions de personnes qui sont touchées par la faim. La faim s'est stabilisée un peu en Amérique latine, en Asie, mais en Afrique, par contre, elle a augmenté, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, c'est une situation qui mérite de l'attention, notamment au niveau de la politique et au niveau des investissements.
On parle de la faim en Afrique, pourtant le continent dispose de nombreuses terres cultivables
et d'une population parmi les plus jeunes au monde. Qu'est-ce qui fait problème?
En effet, le potentiel africain, il est énorme. En plus de la ressource terre, en plus de l'eau, il y a même le potentiel jeune. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, 65% de la population a moins de 25 ans. Donc ça, c'est un potentiel, c'est une énergie dormante que nous manquons de transformer en opportunité. Mais le problème, il est plus profond que là. Il est parfois structurel. Quand vous prenez par exemple, beaucoup de pays en Afrique sont dans des situations, des contextes de fragilité. Ça peut être l'extrême pauvreté, ça peut être les crises, ça peut être les inégalités, ça peut être les questions environnementales, climatiques, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs déterminants. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 millions de personnes déplacées internes. Donc ces personnes abandonnent tout dans leur localité, dans leur milieu rural, se déplacent vers d'autres localités, ils n'ont plus de moyens d'existence, plus de moyens de production, et cela affecte aussi donc la sécurité alimentaire. Le troisième élément, c'est au niveau climatique. Les 5 pays les plus vulnérables au changement climatique se retrouvent en Afrique. Ça affecte la capacité productive, ça affecte la productivité avec des incidences donc sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Autre aspect, c'est le ralentissement économique qu'on a connu pendant la période du Covid. La plupart de nos pays étaient donc dans des situations négatives. On peut dire que pendant des années, le secteur agricole n'a pas connu assez d'investissement et cela a pu aussi expliquer toutes ces situations qui s'est accumulée d'une année à une autre.
Que reste-t-il réellement à faire pour éliminer la faim et la malnutrition?
Il faut innover, ensuite il faut accélérer et ensuite il faut passer à l'échelle en tenant compte des contraintes qui sont là telles que les changements climatiques, mais aussi en tirant parti des potentialités dont les solutions digitales. Il faut adresser les éléments à différents niveaux. Travailler à booster la productivité, la nutrition et l'accès au marché des petits producteurs. Vous savez, les petits producteurs, dans le monde, ils sont 500 millions. Et ils produisent pratiquement 80% de la nourriture que nous mangeons. Donc, c'est une composante assez importante. Donc, et leur productivité en ce jour est encore très faible. L'autre facteur ou élément, c'est travailler donc à mieux s'adapter au climat. Parce que les changements climatiques, c'est réel et ça est là. Comment travailler donc à mieux s'adapter au climat? Donc ça va être par exemple l'utilisation donc de variétés tolérantes à la sécheresse, ça va être tout ce qui est système d'alerte précoce, ça va être donc la restauration des écosystèmes, ainsi de suite. Le troisième élément, ça peut être bâtir sur les systèmes alimentaires pour promouvoir des entreprises, des petites et moyennes entreprises.
C'était Bernard Hien, directeur Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA, le Fonds international de développement agricole.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, deux montagnes ont la particularité d'attirer beaucoup de touristes. Il s'agit des monts Mafa, situés dans la localité de Bessédi-Brignan. Ces deux montagnes, disent les habitants, abritent une source d'eau bénite capable d'exaucer toutes sortes de vœux. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Ange Nomenyo, nous en dit plus dans ce reportage.
Situés en pleine forêt, les monts Mafa offrent un paysage majestueux de par leur taille et leur grandeur. Ils sont environnés par une verdure apaisante et clairvoyante qui attire de nombreux touristes. Mais en plus de cela, ils abritent une source d'eau bénite qui a la particularité d'exaucer toutes sortes de vœux selon les croyances locales. Michel Koua, guide touristique.
Seulement que vous avez un vœu à émettre. D'accord. Vous dites que bon, moi je vais au Mafa pour émettre un vœu. Par exemple, vous pouvez avoir un problème d'enfantement. Je dis n'importe quoi, maladie, quoi, vous venez, vous voyez le gardien, vous lui soumettez vos préoccupations, il dira que bon, il faut ceci, voilà, et puis bon, lui, il vient avec vous pour faire le sacrifice, arriver là-bas, il va aussi verser de la boisson, faire la diversion également sur le mont là-bas, et puis bon, faites votre bain.
Ce jour-là, un groupe de touristes est venu visiter les lieux. Après les explications, le guide les conduit à la source d'eau bénite. La montée dure une quinzaine de minutes. Une fois arrivé, chaque touriste fait son bain de purification afin de réaliser ses vœux.
Ici, on assiste au bain de purification et de bénédiction.
Yapo Nadine, habitante de Bessédi-Brignan.
Moi, je suis venue à l'année 2008. J'ai fait un vœu pour pouvoir rentrer à l'école professionnelle. Oui, le concours a marché.
Michaud Joseph, habitant de Bessédi-Brignan.
Quand tu n'as pas du travail,
ou bien tu n'as pas d'enfant. Quand tu viens, tu vois le vieux qui est en train de laver les gens là-bas. Les gens viennent solliciter de l'aide. De l'aide. Et souvent, ça réussit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici.
Après le bain de purification, les touristes peuvent admirer la beauté de la verdure qui environne la montagne. Ce vivier forestier offre un environnement remarquable avec un air pur. Occasion pour les habitants de la région de plaider pour sa préservation. Jean-Luc Assis, originaire de la région.
Le seul avantage qu'on peut tirer, c'est qu'on est dans la nature. Et quand vous voyez la nature comme ça, et la nature qui est vraiment, qui n'a pas été détruite, et c'est ce qu'on recherche effectivement. Et donc, je me sens très bien parce que cette forêt a été préservée et je pense que c'est un atout culturel que le village donc, de Bessé de Bignan a. Et il faut qu'il continue de préserver donc, cette forêt-là et empêcher toute personne donc, qui veut détruire cette forêt.
Les monts Mafa sont régulièrement visités par des touristes de tout horizon. Les habitants de la région s'y rendent également pour effectuer toutes sortes de pèlerinages à l'occasion des fêtes et d'autres événements spéciaux. Ange Bijou Lomégnon, de retour d'Éthiopie pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, la crise énergétique s'intensifie. Selon la SEEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, principale société chargée de distribuer le courant dans les ménages, la situation pourrait durer jusqu'au retour des grandes pluies. En cause, une exploitation limitée des groupes de son usine. Depuis quelques jours, la SEEG rationne l'électricité dans le Grand Libreville, aux grandes dents de ses milliers d'abonnés. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Dans un récent communiqué, la Société d'énergie et d'eau du Gabon pointe des défaillances techniques à l'origine de la crise énergétique qui secoue Libreville et ses environs.
Cette crise résulte d'un déficit de 60 MW consécutif à la baisse critique du niveau 2 des barrages hydroélectriques de Kingilé-Tchimbélé, avec pour conséquence l'exploitation limitée des groupes de l'usine.
Devant ces difficultés du moment, la SEEG a mis en place un programme de délestage rotatif à travers la ville. Mais dans plusieurs quartiers, ce chronogramme n'est pas respecté selon les populations.
On a vu le programme qui a été donné par la Société de l'énergie du Gabon concernant les coupures. Moi, je suis à Kébéville et là, à 19h, selon la SEEG, selon la programmation, on est censé avoir la coupure à 22h, de 22h à 1h. Fort de constater que nous sommes déjà dans le noir. Où est l'ordre dans cette programmation?
Conséquence de ces coupures d'électricité, les résidents perdent régulièrement leurs appareils électroménagers, comme ici à Kanda, au nord de Libreville.
Nous vivons des situations infernales. Alors, comme vous pouvez le constater, celui-ci est pratiquement le deuxième congélateur que nous achetons, que nous avons acheté depuis que nous sommes ici à Angers-Tom. Il est acheté depuis plus d'un mois à cause des coupures intempestives. Et nous avons essayé de trouver quelques solutions, comme vous pouvez le constater, avec ce régulateur, qui malheureusement n'arrive toujours pas à jouer les fonctions pour lesquelles nous l'avons acheté.
Privés de moyens de conservation des vivres frais, les familles vivent désormais au jour le jour.
On a rien, on ne peut même pas faire le marché en gros. Il faut faire le marché tous les jours.
Pourquoi?
À cause des coupures. On a des baisses de tension. Une nuit, ça peut arriver à 20-30 coupures.
Vraiment, tout le temps, le transport, il n'est pas, pas assez puissant pour la zone. Ce qui fait en sorte que, ici, tout le monde utilise les régulateurs de tension.
Une récurrence de coupures d'électricité que les jeunes internautes transforment en une autodérision sur la toile. Illustration parfaite d'une situation à laquelle semblent désormais s'accommoder les Libreville-Loire.
Coupure de ce soir dans les quartiers d'aujourd'hui. Coupure dans Venez-Voix. Coupure, mieux plus.
Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt. We'll be right back.